France Info.
Et à la une donc ce matin, Donald Trump est-il en train de reculer? C'est encore flou, mais il propose désormais un cadre pour un accord sur le Groenland et plus de droits de douane pour les Européens. On va faire le point dans un instant. À la une également, le couple Moretti auditionné. Vous entendrez ce qu'ont dit les gérants français du bar de Cran Montana aux enquêteurs. Bar qui a brûlé, on le rappelle, le soir du réveillon avec une quarantaine de morts en Suisse. La pêche interdite pour un mois à partir d'aujourd'hui dans le golfe de Gascogne. C'est pour protéger les dauphins, on entendra les pêcheurs. Et puis l'OM qui n'a pas fait le poids, battu en Ligue des Champions au Vélodrome par Liverpool. Donald Trump continue, c'est son habitude, de souffler le chaud et le froid. Les Européens sont sans doute un peu perdus ce matin au réveil et les Groenlandais encore plus. Hier, le président américain a finalement exclu, après des semaines de menaces, d'utiliser la force pour s'emparer du territoire arctique du Danemark. Et dans la nuit, il a finalement annoncé, même Franck Madvon, un cadre pour un accord avec l'OTAN.
C'est une réunion très productive, selon Donald Trump, avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui aurait dessiné le cadre d'un futur accord sur le Groenland. Ce compromis donnerait-il le contrôle de l'île aux États-Unis? Pas de réponse claire à ce stade, mais le projet satisfait suffisamment le président américain pour qu'il lève ses menaces d'une nouvelle guerre commerciale. D'après des sources militaires, l'OTAN aurait discuté de la possibilité pour Washington d'exercer sa souveraineté sur certaines zones du territoire pour y installer des bases militaires. Un peu plus tôt, à la tribune du Forum de Davos, Donald Trump a redit combien le Groenland était essentiel pour la sécurité des États-Unis, une île que seul Washington peut protéger, dit-il. Certes, l'Américain a exclu un recours à la force contre le territoire, mais il a surtout montré les muscles avec l'Europe, envahie par l'immigration, dépendante des États-Unis, dont certains lieux ne sont plus reconnaissables. Donald Trump a cherché à démontrer qu'il pouvait obtenir ce qu'il voulait compte tenu de la puissance de son pays, grâce à la simple menace des droits de douane.
Merci beaucoup, Franck Madvon à Washington pour France Info. Et d'ailleurs, pour le moment, on ne sait pas si les 200% de droits de douane annoncés contre les vins et champagnes français sont toujours d'actualité, alors que la France continue de refuser pour le moment d'intégrer le Conseil de paix que Donald Trump veut créer, une sorte de Conseil de sécurité de l'ONU bis. D'ailleurs, la France et Emmanuel Macron ont à nouveau été moqués hier par Donald Trump à Davos au Forum économique. Emmanuel Macron doit aujourd'hui participer à un conseil européen informel à Bruxelles et on va voir s'il va répondre, Paul Barcelone, à ces moqueries de Donald Trump sur ses lunettes de soleil ou encore sur le prix des médicaments.
Quand Donald Trump se moque de son ami Emmanuel Macron qui a essayé de faire le dur à cuire avec ses lunettes de soleil portées en raison d'un problème à l'œil, l'Élysée ne répond pas. On ne va pas rentrer dans son jeu, explique un proche. En revanche, quand Donald Trump se vante d'avoir forcé le chef de l'État a augmenté le prix des médicaments, la présidence montre les muscles. Avec ce tweet officiel « fake news », accompagné d'un mème, une image animée de Donald Trump, pour bien rappeler que le chef de l'État ne fixe pas leur prix, encadré par la sécurité sociale et donc resté stable. Tous ceux qui sont entrés dans une pharmacie française le savent, poursuit l'Élysée. Avec cette petite pointe de provocation, Trump n'est qu'un gosse, enrage un soutien d'Emmanuel Macron comme d'autres. Il plaide pour une allocution à la télé, réexpliquer la situation internationale aux Français et ne pas laisser les discours de Donald Trump infuser dans l'opinion. À ce stade, elle n'est pas prévue.
Merci beaucoup Paul Barcelone. Nous allons revenir d'ici 5 minutes donc avec un dossier Groenland sur ces nouveaux propos de Donald Trump. On entendra des réactions européennes d'ailleurs sur l'annonce de la fin de ces droits de douane qui n'avaient jamais vraiment commencé d'ailleurs. France Info 5h04, les États-Unis annoncent qu'ils vont transférer jusqu'à 7000 détenus de camps djihadistes en Syrie vers l'Irak pour s'assurer qu'ils restent dans des prisons sécurisées, alors que des évasions sont redoutées ces derniers jours depuis le début d'une offensive de l'armée syrienne dans des régions kurdes où étaient détenus jusqu'à maintenant ces djihadistes. Jacques et Jessica Moretti ont dû s'expliquer devant la justice suisse, entendus pendant de longues heures hier et avant-hier, auditionnés après l'incendie, rappelons-le, de leur bar dans la station suisse de ski de Cran Montana la nuit du réveillon du Nouvel An. 40 personnes sont mortes ce soir-là, 116 ont été blessés. C'est la première fois, Aurélien Tirard, que le couple Moretti est entendu sur le fond de l'affaire.
Oui, sous les yeux d'une trentaine d'avocats de victimes. La plupart d'entre eux ont dû suivre les interrogatoires depuis une salle de retransmission. Devant eux, Jacques et Jessica Moretti, interrogés par les procureurs. Selon un participant, ils sont apparus très dans le contrôle. Les magistrats n'ont pas réussi à les bousculer. Jessica l'assure, si elle se trouvait bien dans son bar au moment de l'incendie, elle n'a pas fui avec la caisse remplie d'argent, comme l'a écrit la presse italienne. Tous les deux l'affirment, le personnel du bar avait bien été formé aux règles de sécurité, mais selon eux, certains employés ont oublié les consignes à appliquer en cas d'incendie. Par ailleurs, Jacques Moretti le dit, il avait testé dès 2015 la résistance au feu des mousses acoustiques sans que cela ne l'alerte. Cet isolant est soupçonné d'être à l'origine de l'incendie. Il l'avait lui-même installé dans le sous-sol du bar. Hier soir, Jacques Moretti est reparti en prison. Il espère toujours être libéré sous caution.
Aurélien Tirard du service police-justice de France Info. Un homme de 66 ans en Haute-Savoie vient d'être condamné à 5 ans de suivi socio-judiciaire assorti d'une injonction de soins. Il fait partie des hommes arrêtés pour avoir commandé une poupée pédopornographique, une poupée sexuelle à l'image d'enfants, des objets que l'on retrouvait en vente, rappelez-vous, sur des plateformes en ligne comme Shein. Ils resteront à quai pendant un mois des bateaux de la façade atlantique. Plusieurs centaines de bateaux de pêche pour la troisième année consécutive. La pêche est totalement interdite à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 février dans le golfe de Gascogne. Alors c'est une mesure décidée par la justice. L'objectif, c'est d'éviter les captures accidentelles de dauphins. Elles se sont multipliées ces dernières années. D'ailleurs, cette mesure, elle se prouve et elle s'avère efficace. 60% de captures accidentelles en moins l'hiver dernier. C'est la troisième année consécutive, on le rappelle. Mais c'est évidemment un coup très dur pour la filière, pour les pêcheurs. Guillaume Fariol, d'ailleurs, sur place, plusieurs équipes ont été dépêchées, des équipes de chercheurs qui planchent sur des solutions plus souples et ils viennent d'ailleurs de publier un rapport.
Des survols de l'océan, des observations par bateau, des analyses biologiques sur les dauphins échoués. Pendant 3 ans et demi, les scientifiques de l'Observatoire Pélagis et de l'Ifremer ont scruté les dauphins, leurs proies également, et ils ont mis sur pied une première carte du risque de captures accidentelles, ce qui pourrait permettre de limiter la fermeture de la pêche dans les prochaines années, explique Mathieu Doré, chercheur à l'Ifremer.
Il semble que le risque de capture de dauphins soit encore plus important quand il y a un certain type de proie présent dans la zone. On arrive à faire des cartes de risque de capture qui sont assez précises. Donc on ne fermerait que les zones les plus à risque, des fermetures plus localisées qui permettraient de moins impacter la filière pêche.
Les scientifiques proposent aussi de changer la taille des filets. Plus ils sont petits, moins il y a de risque de capturer un dauphin. Et pour encourager les pêcheurs à se convertir à ces bonnes pratiques,
l'idée ce serait d'attribuer plus de quotas, plus de possibilités de pêche aux pêcheurs qui font le moins de captures accidentelles pour les inciter à adapter leurs pratiques pour essayer de limiter au maximum les captures accidentelles de dauphins.
Autre solution avancée, la pêche à la ligne, encore moins risquée, ou l'installation de répulsifs sonores sur les bateaux pour faire fuir les dauphins.
Merci Guillaume Fariol sur cette interdiction donc pour un mois de la pêche dans le golfe de Gascogne. Ce devrait être la dernière année, mais ce pourrait bien être prolongé. Des associations de défense de l'environnement ont saisi la justice pour le réclamer. C'est une défaite logique, mais elle a bien plombé le moral des Marseillais hier soir. L'OM a été largement battu au stade Vélodrome, 3-0 en Ligue des Champions par Liverpool pour l'avant-dernière journée de la phase de qualification de la compétition européenne. Évidemment, l'OM n'a pas pesé face aux champions d'Angleterre. Les Marseillais, pour obtenir leur qualification pour les barrages, devront donc sans doute s'imposer lors d'un dernier déplacement mercredi prochain à Bruges. Ce sera une vraie finale car les 9 points qui ont été décrochés depuis le début de la compétition par Marseille, Nicolas Perronnet, il pourrait ne pas suffire en cas de défaite.
Les chants anglais résonnent encore dans le Vélodrome, mais les joueurs marseillais, eux, ne pensent déjà qu'à une chose, leur finale, dans une semaine à Bruges, juste le temps rapidement d'évacuer cette fête gâchée face à Liverpool. Pour l'Argentin Facundo Medina,
personnellement je suis un peu dégoûté.
Comme pour son compatriote et capitaine Léo Balerdi.
C'est une soirée un peu triste, mais il faut continuer. On a les derniers contre Bruges et on va gagner, on va se qualifier.
C'est donc dans la Venise du Nord que l'OM tentera de garder la tête hors de l'eau. Et ce ne sera peut-être pas si simple, tant perd l'ailier Timothy Weah.
Je connais Bruges, jouer là-bas c'est pas facile du tout. Donc on doit rester tous ensemble. On a beaucoup d'ambition dans ce club. Je pense que mentalement on est bien en ce moment.
Et mieux vaudra l'être car l'ascenseur émotionnel en Belgique pourrait être violent. L'OM n'aura pas forcément besoin de gagner pour se qualifier, mais n'est pas non plus à l'abri d'un scénario catastrophe en cas de défaite.
Merci beaucoup Nicolas Perronnet. Christine Peña, c'est l'heure de votre météo à 5h10 avec ce froid qui fait du surplace sur le nord-est uniquement.
Uniquement sur le nord-est, voilà. On a des gelées qui s'attardent toujours du côté de Nancy, de Metz. On est à moins 2, moins 3 degrés tout de même ce matin, alors que partout ailleurs, on est entre 8 et 10 degrés. Une masse d'air assez homogène sur le reste des régions. Et cet après-midi, même chose, 3 à Strasbourg seulement, contre 12 à Paris, comme à Rennes, à Bordeaux, à Marseille également, 12 degrés. Vous voyez qu'à part le nord-est, les températures sont homogènes et les prochains jours, alors, elles devraient baisser mais légèrement. On n'a pas encore cette vague de froid là qui voudrait s'imposer, venue de Russie et de Scandinavie. On a toujours ce courant d'ouest perturbé, c'est vrai, mais beaucoup plus doux qui s'impose sur la France.
Merci beaucoup Christine Peña. 5h11.